Alors ce matin, on poursuit notre série sur le premier livre des rois, livre de l'Ancien Testament, qui retrace l'histoire des rois du peuple d'Israël. On est vraiment dans l'Ancien Testament. On est dans la saison 1 avec le roi Salomon, successeur de David, et c'est lui que Dieu a placé sur le trône, qui a affermi son trône, qui a comblé de sagesse. On a vu la dernière fois qu'un peuple, à cause d'un roi sage, le peuple connaît la paix, connaît le repos, connaît la prospérité. Une sorte d'âge d'or, on pourrait dire, pour Israël. Et ce matin, nous allons voir le grand chantier du roi Salomon, la construction du temple. Littéralement, on devrait dire la construction de la maison de l'Éternel. Alors, notre passage, vous le voyez hein, derrière moi, va de 1 roi, chapitre 5, verset 22, jusqu'au chapitre 8, verset 21. Ça fait pas mal de pages, je vous rassure. Nous lirons pas ce matin l'ensemble, on va juste prendre deux extraits principaux qui vont bien illustrer l'ensemble de ces différentes pages. Et je vous propose de suite la première lecture, qui est le passage du chapitre 6, les 22 premiers versets. 1 roi, chapitre 6. Je vous invite à le suivre dans vos Bibles ou à écouter. Ce fut 480 ans après la sortie d'Égypte des Israélites que Salomon commença de construire la maison destinée à l'Éternel. La quatrième année de son règne sur Israël durant le mois de Dviv, qui est le deuxième mois. La maison que le roi Salomon construisit en l'honneur de l'Éternel avait 30 mètres de long, 10 de large et 15 de haut. Le portique situé devant le lieu saint du temple avait 10 mètres de long, correspondant à la largeur, on pourrait dire, de la maison, et 5 de profondeur sur le devant de la maison. Le roi fit à la maison des fenêtres solidement grillagées. Il construisit contre le mur de la maison des étages circulaires qui faisaient le tour des murs de la maison, du lieu saint et du sanctuaire. Il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était large de 2 mètres et demi, celui du milieu de 3 et le troisième 3 et demi. En effet, il ménagea des retraits tout autour de la maison, à l'extérieur, afin que la charpente ne pénètre pas dans les murs de la maison. Lorsqu'on construisit la maison, on se servit de pierres toutes taillées. On n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument en fer dans le temple pendant qu'on le construisait. L'entrée des chambres de l'étage se trouvait sur le côté droit de la maison. On montait à l'étage du milieu par un escalier tournant et de l'étage du milieu au troisième. Lorsqu'il eut fini de construire la maison, Salomon lui fit un plafond de planches et de poutres de cèdre. Il donna 2,5 mètres de hauteur à chacun des étages qui faisaient tout le tour de la maison et il les rattacha à la maison par des poutres de cèdre. L'Éternel adressa la parole à Salomon. « Te voilà en train de construire cette maison. Si tu suis mes prescriptions, si tu mets mes règles en pratique, si tu respectes et gardes tous mes commandements, j'accomplirai la promesse que j'ai faite à ton père David envers toi. » J'habiterai au milieu des Israélites et je n'abandonnerai pas mon peuple Israël. Lorsqu'il eut fini de construire la maison, Salomon revêtit ses murs intérieurs de planches de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois à l'intérieur et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Il revêtit de planches de cèdre les 10 mètres du fond du temple, depuis le sol jusqu'en haut des murs, et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Les 20 mètres sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le cèdre à l'intérieur de la maison présentait des sculptures de colinques et de fleurs entrouvertes. Tout était en cèdre. On ne voyait aucune pierre. Salomon établit le sanctuaire à l'intérieur, au milieu de la maison, pour y placer l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Il avait 10 mètres de long, 10 mètres de large, 10 mètres de haut, et Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un autel en cèdre et le couvrit d'or. Il le couvrit d'or pur l'intérieur de la maison, et il fit passer le voile dans des chaînettes d'or dans le sanctuaire qu'il couvrit d'or. Il couvrit d'or toute la maison tout entière, et il couvrit d'or tout l'autel qui se trouvait devant le sanctuaire. Jusqu'ici, simplement. Beaucoup de descriptions, hein, je vous ai perdu. Vous allez essayer de vous imaginer. Vous savez, dans les années 90, il y avait une émission télévisée en Angleterre qui s'appelait « À travers le trou de la serrure ». Alors le concept, On fouillait dans les maisons de certaines personnes, avec l'autorisation bien sûr. Les caméras exploraient chaque pièce, ouvraient les placards, observaient les meubles, la déco, puis la question était posée, qui peut bien habiter ici ? Alors, bien évidemment, c'était des maisons de célébrités. Et à partir des indices trouvés, le style, les objets, les trophées peut-être, le public devait deviner de qui s'agit-il. Et à la fin de l'émission, bien évidemment, il y avait la grande révélation de ce jeu, notamment si on avait raison. L'idée, c'était qu'en observant la maison, on pouvait deviner quelque chose du caractère de son occupant. Par exemple, une collection impressionnante de trophées de sport, vous vous dites, ça trahissait sans doute un ancien sportif, ou encore un sportif en activité. Et bien dans notre passage de ce matin, la Bible nous invite à faire un peu la même chose. Les chapitres 6 à 8 de 1 roi nous ouvrent la porte de la maison de Dieu. Trois chapitres complets sur les 11 qui sont consacrés à Salomon, 11, voilà, ça fait un bout. Trois sont consacrés à cette construction, à ce chantier colossal. Et le texte ne nous parle pas simplement de ce temple terminé, il nous fait assister à tout. Il parle de la préparation de cette construction, il nous parle de la construction, il nous parle de l'aménagement, on nous parle des meubles, on ne l'a pas lu, mais et il nous parle même de l'inauguration. Alors, posons-nous cette question, à qui est destinée cette maison ? D'ailleurs, vous l'avez remarqué dans ma lecture, à chaque fois qu'il y a écrit dans nos traductions « temple », en fait, littéralement, c'est « maison » qu'on aurait dû mettre. C'est littéralement le mot « maison » qu'il faut entendre. On connaît déjà la réponse de qui habite ce lieu. C'est une maison dédiée, on l'a entendu, au nom du Seigneur, au nom de Dieu. Voilà pourquoi j'ai donné comme titre à cette portion ce matin, une maison pour le nom de Dieu. Et en fait, à travers cette question et à travers ces textes, on devrait se poser la question, mais que pouvons-nous apprendre sur Dieu en regardant cette construction ? Que révèle cette maison de son caractère, de son identité, de sa manière d'agir ? À mesure que j'ai travaillé ce texte, j'ai été frappé par la richesse des parallèles, des détails, des articulations qu'on peut faire avec de nombreux passages en l'Écriture. Et ce matin, en une petite demi-heure, on n'a de loin pas la possibilité de regarder la profondeur de ces passages, de cette cohérence de l'Écriture. Je me suis posé la question, mais Dieu a-t-il besoin d'une maison ? Est-ce qu'un bâtiment peut contenir l'immensité de Dieu ? Pourtant, on voit dans le texte, et on le verra aussi dans notre lecture, Dieu choisit d'habiter au milieu des siens. Mais le premier point que j'aimerais remarquer, c'est que ce temple, littéralement cette maison de Dieu, ne sort pas de terre par hasard. Dieu ne se manifeste parmi nous, pas n'importe comment, ni n'importe où. Dieu choisit un temps, Dieu choisit un lieu, Dieu choisit un peuple, Dieu choisit un bâtisseur, ici en l'occurrence Salomon. Et c'est mon premier point, il y a des fondations, selon le plan de Dieu, à cette construction. Cette construction architecturale de cette maison commence sur des bases, en fait, spirituelles, profondes, bien plus profondes que les fondations de pierre qui nous sont décrites dans ce texte. Et premier élément que j'aimerais relever à cette construction, c'est que c'est selon les promesses de Dieu. C'est un principe qui est dans le cœur de Dieu. Tout au long de l'Écriture, son désir à Dieu est de venir habiter parmi les siens, de venir habiter parmi son peuple, parmi ses enfants. Il souhaite cette proximité avec nous. On le voit au verset 11, qu'on l'a lu. Je vais juste le relire. L'Éternel adressa la parole à Salomon, te voilà en train de construire ce temple. Et le verset 13, j'habiterai au milieu des Israélites et je n'abandonnerai pas mon peuple d'Israël. Il a son désir. En pleine construction, Dieu interpelle Salomon, il dit « J'ai envie d'habiter parmi vous, j'habiterai au milieu de vous. » Il ne donne pas de conseils sur la construction, mais il dit son désir « J'ai envie d'habiter parmi vous. » Et cette promesse d'habiter parmi vous, elle est à la condition, dans ces versets 11 à 13, que le roi marche dans l'obéissance. Il y a des promesses. De plus, on voit dans ce texte que Salomon se lance dans cette construction, non pas parce que ça lui est venu comme ça, mais il s'appuie sur les promesses de Dieu que Dieu lui-même a fait à son père David. Je vous invite à regarder un peu avant, au chapitre 5, par exemple, verset 17. C'est Salomon qui parle. « Tu sais que mon père David n'a pas pu construire de maison pour l'Éternel son Dieu à cause des guerres qu'on lui a livrées de tous les côtés jusqu'à ce que l'Éternel lui ait soumis ses ennemis. Désormais, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de tous les côtés. » C'est ce qu'on avait vu la fois précédente. « Plus d'adversaires, plus de malheurs qui menacent. J'ai l'intention de construire une maison en l'honneur de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à mon père David. Ton fils, celui que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui me construira une maison. » David, il se dit, non, Salomon, pardon, va construire parce que Dieu a fait la promesse à David qu'un jour, son successeur construira cette maison. Salomon se rappelle les promesses de Dieu à l'égard de son père David. Et c'est un texte très riche parce que vous retrouvez le parallèle dans 2 Samuel 7. C'est l'alliance. Dieu qui s'engage envers son roi David et qui fonde cette construction. C'est dans le plan de Dieu que cette maison soit construite à ce moment-là. Et vous allez retrouver tout à l'heure ce rappel que c'est le plan de Dieu dans le chapitre 8 qu'on lira tout à l'heure. C'est un projet, une construction promise et annoncée depuis, on pourrait dire presque des siècles, mais depuis des dizaines d'années. Et vous l'avez entendu dans notre lecture, verset 1, Salomon se lance dans cette construction dès 4 ans de règne. On le savait, il est très jeune, probablement 24 ans, il se dit « Je me lance dans cette grande construction, c'est le plan de Dieu. » Ce n'est pas un projet improvisé, c'est le moment choisi par Dieu. Et cela nous amène au deuxième élément qui participe à la fondation de cette construction. Elle a été conduite par un roi sage et riche et béni. Salomon est un roi sage, on l'a entendu, béni pour conduire une telle entreprise. C'est ce que nous avons entendu les fois précédentes. La sagesse et les ressources énormes de Salomon sont mises à contribution pour cette construction et manifestent la faveur de Dieu dans ce projet extraordinaire. C'est un temps de paix, on l'a entendu, un temps de repos. Ce n'est qu'avec un tel roi que cette construction, que cette entreprise est possible. Et si vous prenez le temps, si vous avez pris le temps de lire ces 3-4 chapitres qui parlent de la construction du temple, vous aurez vu la sagesse de Salomon va revenir comme un petit refrain par-ci, par-là. Parce qu'il y a un roi sage, un roi qui est dans un temps de paix, cette construction de la maison de Dieu est possible. Toutes les ressources sont mises à disposition de cette construction. Il y a une prospérité du pays, une paix, un calme, y compris avec les voisins, qui rend cette construction qui est audacieuse propice. Quand Dieu prépare quelque chose, il prépare aussi les personnes et les ressources pour l'accomplir. Et enfin, un troisième élément qui pourrait nous échapper si on le lit rapidement, qui pose les fondations de cette construction, c'est qu'elle est ouverte aux nations. Elle rassemble les nations. Cette maison va participer à l'adoration du Dieu d'Israël, au Dieu unique. On ne l'adore pas n'importe comment. Il y a tout un certain nombre de règles qui précèdent notre livre des rois. Israël, on le sait, c'est un peuple choisi pour rendre hommage à Dieu, à être témoin aux yeux des nations d'une relation possible avec Dieu, pas n'importe comment, avec des sacrifices, etc. Et Salomon construit cette maison pour rendre visible ce culte rendu à Dieu. Et notre texte de 1 roi, dans ces 3 chapitres, va nous montrer les contributions exceptionnelles des nations. Parce qu'on apprend qu'il y a 2 hommes, notamment, où leur contribution elle est assez audacieuse. On parle du roi Hiram et on parle du serviteur Hiram un peu plus loin. Chapitre 5, le roi de Tyr, Hiram, un roi voisin, et Hiram, un artisan habile, les chapitres 7, qui est aussi rempli de sagesse et qui va faire les ustensiles. Et en d'autres termes, si vous regardez, 2 hommes étrangers vont participer à cette construction. On va le voir aussi la semaine prochaine, quand on va étudier la suite. On va voir qu'il y a la place des nations dans cet événement-là, des étrangers qui viennent à Dieu, qui sont attirés par son nom. Et c'est un thème qui traverse l'ensemble de la Bible. Je vous prends juste un exemple. Dans Ésaïe 2, il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel, on retrouve le même vocabulaire, sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et de toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, etc. Donc on voit que cette construction, elle est là appelée à être un point de convergence, de rassemblement des nations. Dieu rassemble déjà au-delà d'Israël. Parfois on se dit, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du peuple d'Israël. Mais quand on regarde cette construction, on voit que Dieu emploie déjà le roi de Tyr et un serviteur qualifié qui est d'une nation autre. C'est un élément qu'on pourrait facilement passer à côté. Les voisins sont impliqués dans cette construction. Et d'ailleurs, de façon très généreuse, Hiram, vous le voyez ça par exemple au chapitre 5, verset 21, Hiram se réjouit de collaborer, d'offrir ses services pour abattre les arbres, les cèdres et pour construire ce temple. Il se réjouit de cette coopération, de cette alliance à participer à cette construction. L'artisan Hiram est né d'une union mixte entre une mère israélite et un père de Tyr, donc aussi de l'étranger, artisan du bronze. Et on voit qu'il va participer sans doute à la gestion de toute la construction du mobilier. C'est pas rien. C'est pas juste, on sait pas faire ce truc-là, non. Il a fait tout. Ici, à l'époque de Salomon, Dieu met des étrangers dans son chantier. Dieu a le monde entier en vue quand il pense à la maison pour Dieu, pour y habiter. J'arrive donc au deuxième point que j'aimerais nous voir remarquer. C'est que c'est une maison vraiment extraordinaire, magnifique, un édifice extraordinaire que Salomon est en train de bâtir. Et c'est vrai qu'on pourrait passer à côté de la richesse de la réalisation de cette maison. Un bâtiment qui aurait probablement figuré sur la liste des lieux les plus importants au monde s'il n'avait pas été détruit. Et le problème que j'ai eu, et que probablement vous avez aussi, c'est quand on lit ce type de verset, je ne sais pas vous, mais ça peut vite paraître monotone et fastidieux. Des passages remplis de mesures, d'instructions, de descriptions de matériaux, d'agencements, de décorations, de chiffres sur l'ampleur des ouvriers nécessaires, etc. Et on se demande à quoi bon tous ces détails. On décrit une fois l'intérieur, on décrit une fois l'extérieur, on décrit les objets, etc. J'ai beau être architecte et assez curieux de nature, je suis comme vous devant cette profusion de descriptions. J'ai du mal. Mais si on a cette attitude, en écoutant de dire « bon, c'est que des détails », on passe à côté de ce que l'auteur veut nous montrer. On passe à côté de l'image riche de ce que cela veut dire. Il y a quelques précisions peut-être utiles, hein. Il faut comprendre qu'à l'époque, les gens ne vivent pas dans une capitale à l'image occidentale où il y a des gratte-ciels un peu partout, entourés de monuments impressionnants, de cathédrales, de ponts, de gratte-ciels, de grands stades, etc. Les gens vivaient sous des petites tentes, dans des maisons en briques, assez sobres, en pierre. Et donc ici, quand on décrit cette construction, c'est un bâtiment sans comparaison pour l'époque. Dans nos villes déjà aujourd'hui, dès qu'on a une grue qui se lève au-dessus des toits, les enfants sont curieux. Qu'est-ce qu'ils sont en train de construire là? Imaginez que ce soit le premier bâtiment immense de cette ville. Colossal, grandiose, jamais construit dans votre région. C'est vraiment impressionnant. Ajoutez à cela qu'il n'y a pas de caméra, qu'il n'y a pas d'émission de télé, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de reportage visuel. Nous, on aime les images. Ma femme m'a dit, j'espère que quand tu vas parler du temple, tu vas mettre une représentation du temple. Ah non. Parce qu'on a le texte. C'est l'idée de nous aider à imaginer. D'ailleurs, il faut même se dire qu'une partie de ce bâtiment était inaccessible au public. Ce n'était pas un bâtiment que vous pouviez visiter. Hein. Où il y a des portes ouvertes de temps en temps. Non, vous ne voyez pas l'intérieur. Personne n'avait le droit d'y entrer, sauf si vous étiez prêtre d'une certaine tribu, ou le grand prêtre, pour encore une partie plus spéciale. Autrement dit, cette description est la seule occasion de se représenter cette maison. Toutes ces descriptions, c'est la seule manière d'imaginer. On a du mal avec les images, des mots, hein, mais il faut essayer. Chaque détail évoque la beauté, la grandeur, la sainteté de Dieu. Et c'est un des éléments, c'est que il y a une construction qui est ordonnée. Il y a beaucoup de détails. On pourrait les prendre tous, mais voilà, ce n'est pas l'objet ce matin, mais je voudrais simplement nous faire preuve d'un détail. La grenade, c'est un fruit de la région. Il y en a partout, on apprend dans le texte. Sculpté, placé sur cette construction. Au chapitre 7, verset 20, le texte nous dit qu'il y avait 200 grenades, 200 c'est beaucoup, hein, en deux rangées autour des chapiteaux de bronze. Imaginez cela. Et une grenade, c'est beau. Là, il y a le fruit, on ne voit peut-être pas très bien, hein, mais c'est le fruit, déjà rien que le fruit pas coupé, mais le fruit coupé, il est extraordinaire. Et c'est le fruit de la région. Je ne sais pas de comment il était représenté, mais je me dis rien que même l'extérieur de 200 grenades, et il y en avait partout. 200 grenades sculptées, tellement haut d'ailleurs qu'on ne les voit même pas depuis le sol. Il faut apprendre à se les représenter mentalement. Et j'imagine très bien que votre imagination a déjà été captivée par ce type de détails quand vous êtes rentré dans des monuments que nous avons en France, hein, on n'a pas à se plaindre, dans les grands chefs-d'œuvre architecturaux du monde. Je ne sais pas si vous êtes allé peut-être à Barcelone, je n'ai pas encore eu le plaisir d'y aller, mais vous avez peut-être vu la Sagrada Familia, c'est une église qui se construit, imaginée par Gaudi. Il a tellement imaginé cette église que de son vivant, elle ne s'est pas achevée. Et ça fait 140 ans qu'on y travaille. Elle n'est pas encore terminée. Et ce que j'aime particulièrement dans cette cathédrale, c'est que Gaudi a imaginé sa conception de cette église sous la base de la nature. Il a imaginé que, comme Dieu est le créateur, que les plus belles choses sont dans le monde qu'il a créé, avec les arbres et avec la profusion des détails, qu'il a utilisé ses formes originales pour construire cette église. Il utilise des images d'arbres, par exemple là-haut, la nef, ben voilà, c'est à l'image des alvéoles d'une ruche, etc. Et on peut se dire, mais il s'est inspiré de quoi, Gaudi ? Mais il s'est inspiré de la nature pour imaginer un monument à l'honneur de Dieu. Et en fait, on est un peu dans la même signification ici. De quoi s'est imaginé les auteurs pour décorer ce bâtiment de la nature, de ce Dieu créateur? On voit des grenades, je l'évoquais tout à l'heure, on voit des fleurs, on voit des formes d'arbres, des créatures ailées. Et toutes ces belles choses du monde créé viennent orner, décorer ce temple. Alors dans l'histoire de l'architecture, il y a de beaux bâtiments, de magnifiques églises, mais en réalité, rien ne pouvait à ce moment-là se comparer à la splendeur de cette construction. Un deuxième élément qui m'a interpellé, peut-être vous aussi, hein, je relis 1 Roi 6, verset 7. « Lorsqu'on construisit le temple, on se servit de pierres toutes taillées, on n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument en fer dans le temple pendant qu'on le construisait. » Autrement dit, non seulement cet incroyable édifice a été construit, mais il a été construit dans un silence absolu. Sorte de respect dans ce chantier. C'est surprenant, hein ? Je ne sais pas si vous avez déjà visité un chantier aujourd'hui, ou habité près d'un chantier, ou fait des travaux chez vous. On met des protections auditives, ça fait du bruit, pourvu que c'est fini, avec le marteau-piqueur, etc. Ça résonne de partout, parce qu'un chantier, par nature, c'est bruyant. Mais celui-ci, ce chantier, cette maison est tellement particulière qu'ils fabriquent tout en dehors et ils taillent les pierres à l'avance. Aux dimensions exactes, j'imagine qu'ils ont dû faire des allers-retours, se dire « Oh mince, la pierre est trop grande, on va la ressortir. » Ils transportent, ils assemblent sur place en silence, sans marteau ni burin sur le site. Alors déjà, construire un tel bâtiment à l'époque, ça ne devait pas être évident, mais en silence, waouh. Il y a quelque part un sentiment d'ordre et de dignité. Un bâtiment extraordinaire, précieux. J'imagine les voisins d'un tel chantier. Vous voyez une construction qui s'élève et presque en silence. Une maison pour Dieu. Sentiment de dignité, d'extraordinaire. Troisième élément que j'aimerais souligner, c'est que c'est une construction précieuse. C'est un autre élément qui peut attirer notre attention, c'est que tout, absolument tout à l'intérieur est recouvert d'or. En lisant la description, vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, on peut presque se demander si l'auteur ne se répète pas. 1 Roi 6, versets 20 à 22. Il avait 10 mètres de long, 10 mètres de large, 10 mètres de haut, donc la partie centrale là, et Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un autel en cèdre, il le couvrit d'or, il couvrit d'or pur l'intérieur du temple. Il fit passer le voile dans des chaînettes d'or devant le sanctuaire, qu'il couvrit d'or, il couvrit d'or tout le temple tout entier, il couvrit d'or tout l'autel qui se trouvait dans le sanctuaire. L'intérieur, le sol, les murs, les portes, l'autel, tout est recouvert d'or. C'est du grand luxe. C'est l'idée « soyez éblouis ». J'ai entendu que Dubaï voulait faire une petite rue pavée d'or. Voilà, là, c'est tout l'intérieur. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué, une symétrie parfaite, hein, un cube de 10 par 10 par 10. C'est probablement la plus grande quantité d'or au même endroit, en dehors des banques aujourd'hui. Mais... Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que on utilise aussi des matériaux très coûteux derrière l'or pour ensuite les recouvrir d'or. On a mis des planches de cèdre. Alors aujourd'hui, sur nos chantiers modernes, on ne fait pas du tout ça. Hein. On met du plaquage de plâtre et on cache toute la misère qu'il y a derrière. Pour ceux qui font du chantier le savent, il y a des rails, il y a de l'isolant, il y a des tuyaux de partout. Et puis on couvre tout et on espère encore qu'avec la couche de peinture, etc., ça couvre tout. Il n'y a rien de ça. On voit que les planches, c'est des planches de luxe et en plus, on les plaque d'or. C'est magnifique de l'intérieur comme de l'extérieur. Pourquoi ? Parce que l'auteur, parce que celui qui est censé y habiter, voit tout, voit aussi ce que nous ne voyons pas. Enfin, j'aime beaucoup aussi hein, dans cette description de cette maison extraordinaire, dans, vous l'avez entendu, hein, ces chérubins, ces anges énormes, en olivier sauvage, sculptés en olivier sauvage, et qui sont aussi recouverts d'or. Imaginez mes bras ouverts. Hein. Là, j'ai compté, ça fait 2 mètres. Donc voilà, c'est un chérubin qui fait 5 mètres. Là, on a 8 mètres, donc c'est 2 mètres plus. Mais il y a deux gros, énormes chérubins comme ça, là. Imaginez, c'est énorme. Là, on n'a que 3,50 mètres de plafond. Imaginez deux gros. Et à côté de moi, un autre. Hein. Nos ailes se touchent. Une immense arche formée par les ailes de deux chérubins. Et au milieu, le texte nous dit qu'on met l'arche, le coffre de l'Alliance, qui d'ailleurs, il y a aussi un petit couvercle avec deux petits anges, donc vous imaginez deux petits anges, et puis deux énormes anges au-dessus. Alors si vous vous souvenez de la construction de l'arche, de l'Exode, et du tabernacle, ben voilà ces images-là, il y a un écho. Vous imaginez, c'est quand même une vision très spectaculaire, et personne ne le voit. En dehors du prêtre, une fois dans l'année, je le disais tout à l'heure. Personne ne voit ces énormes, énormes anges et ce petit... ce coffre en dessous, rangé en dessous. En fait, on est en train de contempler dans ce texte quelque chose, une maison extraordinaire. Quelque chose que la majorité des gens ne voyaient jamais de leurs yeux. Et nous, on en parle. Et nous y avons accès à cause de ces mots. Et Dieu surtout le voit. Alors, rappelez-vous, hein, la première question que je vous posais la question, quel type de personne peut habiter ici ? Avec cette lecture, cette description, vous regardez cette maison et vous dites, ça doit être quelqu'un d'incroyablement glorieux. Quelqu'un qui aime la beauté de la création comme un hommage approprié à sa gloire, des grenades, des ailes, des treillis, des fleurs, de l'or, ça brille. Vous vous dites, mon Dieu, ça a dû coûter très cher. Et là, ça fait écho à la paix et à la prospérité de Salomon. C'était le moment voulu par Dieu. Alors oui, on pourrait passer vite sur ces versets de description. Mais je crois que la parole voudrait justement qu'on ne le fasse pas et qu'on réalise l'ampleur, la grandeur de ce que c'est en train de se passer. Ils sont là pour une raison. Et si on commence petit à petit à mettre ces petits morceaux ensemble, on devrait se dire, waouh, quelle maison magnifique ! Une maison vraiment extraordinaire, on a là. Unique. Et le plus étonnant arrive encore maintenant, et je vous propose de lire un roi, deuxième temps de lecture, un roi 8, chapitre 8. Donc on est à la fin de la construction, vous allez le voir. On va dire le démarrage, l'ouverture du temple, l'inauguration. Chapitre 8 de un roi. Alors le roi Salomon rassembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus et les chefs de famille des Israélites pour déplacer l'arche de l'Alliance, donc ce coffre qui doit être placé au centre de l'Alliance de l'Éternel depuis la ville de David, c'est-à-dire Sion. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi d'Israël au cours du mois d'Etanim, qui est le 7e mois pendant la fête des tentes. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente de la rencontre, ainsi que tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les prêtres et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquée vers lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis, des bœufs, en si grand nombre qu'ils ne purent être ni comptés, ni recensés. Les prêtres amenèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. En effet, les chérubins avaient les ailes étendues sur l'emplacement occupé par l'arche et ils couvraient le coffre et ses barres. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du sien situé dans le sanctuaire, mais pas de l'extérieur. Telle a été leur place jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables de pierre que Moïse y avait déposées à Horeb lorsque l'Éternel avait fait alliance avec les Israélites à leur sortie d'Égypte. Au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les prêtres ne purent y reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, « L'Éternel a déclaré vouloir habiter dans l'obscurité et moi j'ai construit une maison qui sera ta résidence, un endroit où tu habiteras éternellement. » Puis le roi se retourna et bénit toute l'assemblée d'Israël qui se tenait debout. Il dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui de sa bouche a parlé à mon père David et qui accomplit par sa puissance ce qu'il a déclaré. Il avait dit « Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple, Israël, je n'ai pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y construise une maison où réside mon nom, mais j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple d'Israël. » David, mon père, avait l'intention de construire une maison en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et l'Éternel a dit à mon père David, tu as l'intention de construire une maison en l'honneur de mon nom et tu as bien fait. Seulement, ce ne sera pas toi qui le feras, ce sera ton fils, celui qui est issu de toi, qui construira cette maison en l'honneur de mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis placé à la place de mon père David et je me suis assis sur le trône d'Israël comme l'avait annoncé l'Éternel. Et j'ai construit cette maison en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai réservé un endroit pour le coffre qui contient l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a conclue avec nos ancêtres quand il les a fait sortir d'Égypte. » Jusqu'ici. J'y suis allé un peu. Mais vous avez entendu tous les échos de ce qu'on vient de dire ? Une maison remplie de la gloire de Dieu. Beaucoup d'éléments que nous avons déjà soulignés dans ce passage. Et nous voyons ce moment où l'arche rentre dans le temple, au verset 6. Rappelez-vous, hein, l'arche est ce coffre. On l'a entendu, où il y avait la loi, les 10 commandements. Ce coffre symbolisait déjà la présence de Dieu parmi son peuple. Les promesses qu'il avait faites, il serait son peuple, il serait leur Dieu. L'arche était un symbole très puissant parce que, si vous avez vu le film Indiana Jones, hein, les aventuriers de l'arche perdue, librement inspiré de cette idée biblique, cette arche a accompagné le peuple d'Israël dans bien des périples et dans bien des conquêtes. Vous lisez ça dans le livre de 1 Samuel. C'est un coffre avec une histoire qui est un symbole de la présence de Dieu et maintenant il l'installe dans cette maison toute dorée construite pour Dieu. Et quand l'arche entre dans cette maison, vous l'avez entendu entre ces deux chérubins tellement géants, vous avez entendu ce qui se passe, versets 10 et 11, au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Vous avez peut-être appris à l'école qu'il y a différents types de nuages. Les cirrus, hein, c'est ces petits nuages vaporeux tout haut. Il y a le cumulus, les nuages denses. Les stratus, voilà, c'est ces nuages qui sont plutôt horizontales. Et puis il y a les cumulonimbus, quoi, les nuages denses. Et quand il y a ça, il y a la pluie. Et dans la Bible, il y a un autre type de nuage, la nuée, qui manifeste la présence de Dieu. L'arche, hein, j'ai mis la petite arche, petit rectangle. La nuée qui remplit le temple. Dieu s'installe chez lui. Il remplit le lieu saint. Et ce que je trouve, c'est qu'il ne reste pas juste dans ces petits 10 par 10 là, mais ça déborde tellement qu'ils sont obligés de sortir. Dieu ne reste pas dans le petit coin doré qu'on lui a aménagé. Il déborde. Il déborde. Sa présence, sa puissance, sa sainteté sont telles que les prêtres ne peuvent plus exercer leur service devant Dieu. Ils doivent céder la place. Cette nuée symbolisant la présence de Dieu à ce moment-là. On a d'autres passages peut-être en tête pour vous qui êtes familiers de la parole de Dieu, de cette colonne, cette nuée qui a guidé le peuple. Imaginez le bulletin météo, Cyrus, Cumulus et aujourd'hui, colonne de nuée, Dieu présent parmi nous. Au temps de Moïse, lorsque le tabernacle, hein, la version portable de cette maison fut construit, la même chose, le même phénomène, la nuée vint aussi remplir le tabernacle. Et après tout ce chemin, ils sont à Jérusalem Salomon est établi comme un roi puissant, riche, glorieux, on vient de l'entendre. Il bâtit ce temple et la nuée vient remplir cette maison. Cela signifie que Dieu est maintenant présent avec le peuple. Salomon a dit, moi j'ai construit une maison qui sera ta résidence, un endroit où tu habiteras éternellement. Il se dit, waouh, Dieu, il accepte, il est là. N'est-ce pas extraordinaire? Nous, ce matin, on n'a que des mots, je le disais tout à l'heure. On a écouté une description d'un magnifique temple. Et ici, un temple rempli d'une nuée. Vous avez peut-être vu la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Reconstruite entièrement. Imaginez qu'elle a été reconstruite pour l'Éternel. Et tout à coup, un dimanche, on vous dit, désolé, vous ne pouvez pas y entrer. Le bâtiment est rempli d'un épais brouillard. C'est la gloire de Dieu. Je ne pense pas qu'on serait déçu que le culte soit annulé. Dieu est présent. Oh. Vous serez émerveillé de constater que Dieu est réellement présent parmi vous, de manière tangible, visible pour le peuple. C'est extraordinaire. Là, je suis en train de me dire, mais est-ce que j'ai vraiment envie que Dieu soit présent, si proche de moi, dans mon quotidien ? Une telle proximité que les gens sont obligés de s'éloigner. Mais on voit ceci dans la parole. Ce n'est pas aussi simple pour Dieu de venir habiter parmi les siens. On le sait, tout au long de l'Écriture, si on est rebelle à Dieu, pécheur, avec un cœur impur, des lèvres impures, comme chacun d'entre nous, il ne suffit pas de construire un bâtiment somptueux, de dire « Seigneur, regarde, on a mis beaucoup d'or ». Tu vas venir aimer, venir ici. Il ne s'agit pas simplement de bâtiments, il s'agit d'être quelque part sauvé. On n'est pas un peuple naturellement digne d'accueillir le Dieu trois fois saint. Il est Dieu trop saint pour qu'il vive près de nous comme ça. Et donc à maintes reprises, il y a un autre élément clé qui est tout au long de ces 3-4 chapitres. Un rappel qui vient, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Je vous ai rachetés. Je vous ai libéré de l'esclavage. C'est lui qui en a décidé les contours. 4 fois dans notre lecture, on l'a vu, 3 fois là dans le chapitre 8. 3 fois, il rappelle, vous étiez esclave et je vous ai libéré de l'Égypte. C'est la rédemption. Ce rappel nous dit, si aujourd'hui vous vivez dans ce pays proche de Dieu, c'est uniquement parce que Dieu est venu vous chercher, vous sauver. Vous étiez autrefois esclave, loin de Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, vous a libéré, secouru et pardonné. L'ardoise a été effacée. C'est la rédemption qui est déjà là. Cette maison, cette présence de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la grâce. C'est pourquoi nous pouvons espérer la présence de Dieu. Dieu ne s'installe pas parce qu'on a mis de l'or dans la déco. Dieu s'installe parce que c'est son peuple qu'il a choisi et qu'il a décidé de sauver et qu'il a pardonné suffisamment pour pouvoir habiter au milieu d'eux. Et là, je me dis, waouh, j'aimerais être là, dans un roi. Quelle déception de ne pas y être à ce moment-là unique. Quel dommage de vivre aujourd'hui, 3000 ans après. Moi, j'aimerais échanger franchement l'expérience de cette salle, bon, elle est bien, voilà, elle est bien en état, mais de cette salle avec ce qui est en train de se vivre à ce moment-là. Alors c'est peut-être une tentation pour nous, lecteurs occidentaux, mais c'est peut-être pas la... Je vous rappelle, c'est pas la tentation des lecteurs du Livre des Rois. Vous vous rappelez ce que j'avais dit ? Lorsque le Livre des Rois a été rassemblé, lorsqu'il était à disposition du peuple, les lecteurs ne vivaient plus à Jérusalem. Ils ne vivaient plus près du temple. Ils étaient même en exil. Dieu les avait chassés de cette terre promise. Et ils savaient même qu'à la fin de leur livre, du Livre des Rois, cette magnifique maison glorieuse a été détruite. Que ces colonnes de bronze remplies d'or, qu'au fil du récit du roi, ce temple a perdu, cette maison a perdu de sa splendeur. Les rois successifs ont vendu des morceaux, une partie du mobilier pour payer le voisin belliqueux, une partie de l'or. Et quand il n'y a plus d'or, ils vendent le bronze. Et finalement, à la fin, Nabucodonosor, roi de Babylone, vient, saccage la ville et brûle cette maison. Il ne reste plus rien. Alors, en lisant Un roi, les premiers lecteurs ressentent plutôt de la nostalgie. Nous avions cela et nous l'avons perdu. Dieu était si proche, il n'est plus là. Et là, on a tout l'écho de ce qu'on a déjà entendu. Si vous obéissez à mes lois, si vous m'obéissez, si je reste votre Dieu, je ne vous abandonnerai pas, j'habiterai éternellement. Ça veut dire qu'ils ont peut-être oublié Dieu. Si Dieu nous a quittés, c'est qu'on l'a abandonné. Pour eux, ce passage était, j'imagine, douloureux, nostalgique. Mais pour le chrétien, 3000 ans après, pour nous, il est source d'accomplissement. Parce que dans le Nouveau Testament, il y a une demeure meilleure. Elle n'est pas construite en or. Elle n'est pas décorée de grenades. Il s'agit en réalité d'une personne. Dieu a un plan à sauver l'humanité par le salut. C'était limité dans l'Ancien Testament et c'est pleinement réalisé en Jésus-Christ. Il n'est pas venu, Dieu n'est pas venu parmi nous n'importe comment. Jésus-Christ est venu au milieu des siens, le fils d'un charpentier, un homme nommé Jésus-Christ. Et dans l'Évangile, Jésus visite une réplique du temple. Plus tard, il a été reconstruit ce temple. Et dans une scène surprenante, vous le connaissez peut-être dans Matthieu 24, il interpelle les gens autour de lui et dit « Détruisez ce temple et moi je le reconstruirai en 3 jours ». Et les autres autour de lui disaient « Jésus, je ne suis pas sûr si tu as bien compris la complexité architecturale de cet édifice. Il aura fallu des années pour reconstruire cette copie du temple. Tu ne peux pas rebâtir en 3 jours. » Et l'auteur précise, Jésus ne parlait pas du temple. Le temple dont il parlait, c'était son corps. Il était en train de dire, « Tuez-moi et 3 jours plus tard, je ressusciterai. » Son corps devient le lieu glorieux où Dieu se plaît à habiter. Vous avez peut-être en écho Jean 1, verset 14. La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Tout ce qu'on vient de voir autour de cet imaginaire extraordinaire autour de la maison de l'Éternel se retrouve dans la personne de Christ. La gloire n'est pas dans nos bâtiments, nos structures, nos rites, notre organisation, elle n'a rien de nous. La gloire de Dieu est en Jésus-Christ aujourd'hui. Et il n'est pas aussi facile de vivre près de Dieu quand on est pécheur, mais Jésus dit « Ma mort et ma résurrection seront votre salut, dont vous avez besoin pour m'avoir près de vous. » Le Nouveau Testament va encore plus loin. Il nous dit que l'Église est bâti sur ce fondement de Christ. Pierre angulaire. Nous devenons un temple où Dieu demeure par son esprit. Et lorsqu'on vient à Jésus, on est des pierres vivantes dans cette grande construction extraordinaire parce que Christ est en nous. Dont Jésus lui-même est la pierre angulaire choisie et précieuse. Vous pouvez lire ça dans 1 Pierre. L'assemblée des personnes qui se rassemblent. On parlait bienvenue dans le temple. Non, on n'est pas là, c'est pas le temple, mes amis. Le temple, c'est nous. C'est nous ensemble rassemblés. Où Jésus-Christ est la pierre de référence. On est rassemblés ici, venant, parce qu'on a, on est l'Église. En Jésus-Christ, c'est Jésus qui construit cette église, qui l'a bâtie, où les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, nous dit Jésus dans Matthieu 16. La pleine signification de ce qu'on lit dans le livre des rois s'accomplit aujourd'hui dans ce que nous sommes. Aujourd'hui, au travers de nous, le monde peut voir cette maison extraordinaire. Quand je dis église, je ne parle pas de bâtiment, mais je parle des personnes. Nous ne sommes pas simplement dans la maison du Seigneur, non, nous sommes dans une salle. Et nous sommes la demeure du Seigneur. Et c'est là l'édifice le plus important de toute l'histoire. Un honneur indescriptible. Je vous parlais tout à l'heure de la beauté de cet édifice. Ma question, c'est de me dire, mais est-ce que je vois les croyants qui sont à côté de moi comme de simples gens sympas? Ou est-ce que je les vois comme des pierres précieuses dans la maison de Dieu? Ça change tout. Alors que faisons-nous de ces textes de 1 roi? À quoi bon connaître cet édifice tellement original, tellement extraordinaire, si on vit à l'époque de l'Église? Mais je crois que il y a un écho très fort. Les questions restent les mêmes. À quel point cette maison que nous sommes, que nous formons, est-elle glorieuse ? Et cette maison, aujourd'hui, elle est bien plus précieuse que de l'or, faite d'or. Chaque brique est une personne rachetée par le sang de Christ. Imaginez un chantier où chaque personne a une histoire. Certains sont cabossés, d'autres viennent de très loin. Mais le maître d'œuvre les a placés là, à l'endroit parfait parce qu'il l'a voulu. C'est ce que Dieu fait avec nous dans son Église. Et je crois que ce matin, ce texte de 1 roi nous encourage à regarder autour de nous et à nous dire « Waouh ! C'est vraiment glorieux, c'est extraordinaire ! Cette salle, non, pas cette salle, nous sommes une merveille du monde parce que le Christ a donné sa vie. » Alors oui, en ce moment, petit clin d'œil à la réflexion qu'on a en cours, hein, on réfléchit autour de nos bâtiments. D'avoir des bâtiments plus adaptés aux normes, parce qu'on le sait, elles se dégradent, c'est plus tellement joli de l'extérieur. Mais on le sait, c'est un endroit pour nous réunir. Ce serait tellement bien d'avoir un bâtiment qui soit conforme, qui permette d'accueillir convenablement nos jeunes, l'ensemble de nos activités, tout ce qu'on pourrait imaginer. Et je vous encourage, on vous l'a dit, les anciens vous encouragent à prier pour cela, pour qu'on ait la sagesse, dans les mois à venir, de discerner la direction. Et je crois qu'il est bon d'avoir écouté ce type de texte pour nous rappeler qu'en fait, cette salle, elle n'est pas si mal. Bon, c'est sûr, il n'y a pas de dorure. Ce n'est pas de spectaculaire de l'extérieur. Il n'y a pas de grenade sculptée. C'est très ordinaire. Mais ce texte nous rappelle que la vraie gloire réside dans ce groupe de personnes que nous sommes. Que Dieu est en train de bâtir. Dieu a décidé que vous, que moi, que toi, nous étions un lieu digne pour qu'il vienne y demeurer. Je trouve ça assez extraordinaire. Dieu a décidé que vous soyez ces lieux dignes où il vient habiter par son esprit en chacun de vous. Non pas parce que je suis précieux, que j'en étais digne, mais parce que Dieu nous a suffisamment sauvés. Et je crois que tout cela se réunit. Dieu l'a décidé. Il était ce roi parfait, ce roi sage. Il la rassemble de toute origine. Alors ma première question au début de ce message était, est-ce qu'on se rend compte à quel point cette maison était glorieuse ? Est-ce qu'on se rend compte à quel point nous sommes glorieux et dignes, sommes des pierres vivantes de la plus grande construction de l'histoire, pour un honneur indescriptible ? Et je reconnais qu'honnêtement, je n'y pense pas toujours. Je ne pense pas toujours à cette présence glorieuse que Dieu est parmi nous, en nous. On est assez ordinaire à Wittenheim. La plupart des gens autour de nous à Wittenheim ne savent même pas qu'on existe. Silencieux, peut-être comme la construction du temple. S'ils savaient qu'ici, le Dieu créateur de l'univers se manifeste dans chacun de vous. Dieu dit à son Église, voici la maison de mon nom, voici la maison du nom du Seigneur, le Dieu d'Israël, voici le lieu où je viens demeurer dans toute ma gloire avec le peuple que j'ai sauvé pour vivre en relation avec moi parmi eux.